cette année, nous fêtons un anniversaire. Et pas n'importe lequel. Il s'agit du centenaire du premier enregistrement de Jazz. Ou Jazz ? Ou Jazz ? Ou est-ce que c'est Jade ? J'en suis pas sûr. À vrai dire, les artistes de l'époque n'en étaient probablement pas très sûrs non plus, vu la pléthore de différentes orthographes que l'on pouvait trouver pour ce nouveau mot qui depuis peu s'employait pour désigner une excitante nouvelle forme de musique. L'étymologie du mot est encore aujourd'hui incertaine. Cela proviendrait, dit-on, d'un vieux terme d'argot, jazm, qui voulait dire énergie, vigueur, et qui pouvait porter une certaine connotation sexuelle. D'autres disent qu'il s'agirait d'un détournement du terme français jaser. On compte parmi les autres explications des alternatives un peu plus colorées. Le mot aurait pu à l'origine être associé au parfum au jasmin qu'employaient les prostituées de Storyville, le Red Light District de la Nouvelle-Orléans. Ou alors serait-ce une apocope de Jazbo Brown, un semi-légendaire musicien de Delta Blues du tournant du XXe siècle? En tout cas, le mot n'était pas encore figé lors de ce tout premier enregistrement, car c'est sous le nom du Original Dixieland Jazz Band que les 5 musiciens concernés se sont rendus au studio de la compagnie Victor Talking Machine à New York, le 26 février 1917. Je m'appelle Luke Seabright et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. C'est donc à l'Original Dixieland Jazz Band, rebaptisé Jazz Band peu de temps après, que revient le titre de premier groupe à avoir enregistré du jazz. Le groupe était composé de 5 musiciens blancs, et mené par le cornettiste Nick LaRocca. Le fils d'un cordonnier sicilien, ce dernier grandit en Nouvelle-Orléans et apprend seul à jouer du cornet sous le regard désapprouvant de son père, qui aurait préféré qu'il se lance dans une carrière plus noble. Après plusieurs passages dans les orchestres de Papa Jack Lane, il est appelé à la dernière minute pour un remplacement dans le groupe de Johnny Stein, qui s'apprête à monter sur Chicago, en mars 1916. C'est ce même groupe, après plusieurs changements d'effectifs, qui deviendra ensuite le Original Dixieland Jazz Band et qui propulsera LaRocca vers la célébrité. Après Chicago, c'est New York, où le groupe s'établit une résidence au café Reisenweber, un restaurant à la mode qui faisait également office de boîte de nuit, situé sur Columbus Circle à Manhattan, où, par coïncidence, l'on trouve aujourd'hui le fameux Jazz at Lincoln Center. Le groupe s'établit vite une réputation, et le 26 février 1917, ils sont conviés au studio new-yorkais de la compagnie Victor, où ils enregistrent 2 morceaux, Dixieland Jazz Band One Step, et leur plus célèbre, Livery Stable Blues. On retrouve dans celui-ci un élément de comédie déjà caractéristique de leur concert au Reisenweber, où, par exemple, il n'était pas rare de voir du trombone jouer avec les pieds. Le morceau est un blues en 12 mesures dans le style New Orleans et figure 3 thèmes distincts, joués en succession et chacun répété 2 fois. Lors du 3e thème, on entend les musiciens imiter des bruits d'animaux de ferme. Le cornet de Nick LaRocca produit des hennissements de cheval, la clarinette de Larry Shields un chant de coq, et le trombone de Eddie Edwards beugle comme une vache. L'enregistrement sort en mars de la même année et devient un succès immédiat, battant tous les records de vente. Selon certaines sources, il pourrait même être le premier enregistrement à vendre plus d'un million de copies. La question se pose pourtant. Pourquoi le premier enregistrement de jazz n'a-t-il eu lieu qu'en 1917? L'industrie du disque avait déjà pris son essor depuis plusieurs années. Les disques du ténor Enrico Caruso et du chef d'orchestre John Philip Sousa se vendant par milliers, malgré l'antipathie de ce dernier envers l'enregistrement, qu'il appelait de la musique en boîte. Aussi le jazz, comme on l'entend jouer par le Original Dixieland Jazz Band sur ces 2 morceaux en question, s'entendait déjà depuis quelques années dans les bars, les rues et les places de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi donc n'en a-t-on pas des traces antérieures ? C'est en partie dû au fait que l'industrie du disque était principalement centrée autour des États du Nord-Est. Mais le climat social américain, perverti par les lois ségrégationnistes de Jim Crow, en est aussi indéniablement responsable, puisque les labels discographiques ne montraient que très peu d'intérêt pour les artistes noirs. Il n'est pas anodin que le premier enregistrement d'une musique pourtant emblématique de la culture afro-américaine ait été produit par un groupe de musiciens blancs. Ce premier disque de jazz est d'autant plus associé à l'injustice raciale que le leader du groupe, Nick LaRocca, insista avec véhémence pendant de nombreuses années et jusqu'à sa mort que le jazz était une création exclusivement blanche et que les artistes noirs n'étaient que de simples imitateurs. On notera tout de même que le grand cornettiste créole Freddie Keppard, digne successeur de Buddy Bolden et King Oliver au titre de roi de la Nouvelle-Orléans, avait refusé en décembre 1915 une offre d'enregistrement de la compagnie Victor. La légende dit qu'il aurait refusé de peur que d'autres musiciens entendent et imitent son style, lui-même qui cachait ses doigts derrière un mouchoir lorsqu'il jouait, afin de, selon certains, masquer sa technique. La véracité des raisons derrière ses choix est difficile à vérifier. Mais force est de constater que son refus lui coûta l'opportunité de devenir le premier artiste à enregistrer du jazz. La célébrité fut donc offerte aux membres du Original Dixieland Jazz Band, qui embarquèrent dès 1919 sur une tournée de l'Angleterre, au cours de laquelle ils se présentaient comme les créateurs du jazz. LaRocca, en plus de vouloir nier aux Afro-Américains leur héritage, se proclamait comme étant l'unique inventeur du genre. En quelques années, le groupe se désintégra. Eddie Edwards avait été mobilisé en 1918, le pianiste Henry Ragas meurt d'une grippe en 1919, Larry Shields quitte le groupe en 1921, et finalement, LaRocca abandonne à son tour après une crise de nerfs en 1925, et il retourne travailler dans le bâtiment. Aujourd'hui, l'on retient ce disque pour son importance socioculturelle plus que musicale. Son statut de premier enregistrement de jazz est d'ailleurs contesté. Certains spécialistes citant des enregistrements tels que Down Home Rag de Wilbur Sweatman, qui date de décembre 1916, comme de potentiels prédécesseurs. La limite entre ragtime, musique de fanfare et proto-jazz peut être difficile à définir et fait l'objet de nombreuses discussions académiques. Il est aussi entièrement possible que des enregistrements aient été faits en Nouvelle-Orléans avant 1917, mais non à des fins commerciales. Une chose est sûre, c'est que ce disque permit à un grand nombre d'Américains d'entendre pour la toute première fois une musique complètement nouvelle, et qui allait faire partie intégrante du paysage culturel américain pendant des décennies à venir. Son héritage, c'est aussi d'avoir permis au jazz, qui de par sa propre nature est une musique de l'éphémère, de s'inscrire dans le temps.